et nous avons la chance d'être dans le bureau de Robert Aubert, que je remercie une fois encore de sa gentillesse et de sa générosité. Donc, Robert Aubert, vous êtes l'auteur de près de 350 documentaires.
Non, 120 documentaires.
Ces documentaires, c'est ce que l'on m'a dit. Vous êtes trop modeste, peut-être.
Non, 120 maximum, y compris les tout petits, oui. Non.
Mais écoutez, à ce moment-là, vous êtes modeste. Moi, j'avais lu 350.
Non.
Rester à 120, ce qui est déjà beaucoup, quand même.
Comme quoi, il faut dépasser les pieds de ce qui est écrit.
Et malheureusement, la plupart de ces documentaires restent invisibles. Pour les retrouver, il faut s'adresser à l'INA. Et on peut se demander pourquoi ce manque. Et simplement parce que les documentaires de télévision en particulier peinent encore aujourd'hui à obtenir leur légitimité, et même si ce sont des œuvres au sens plein du terme. Pourtant, votre travail, Monsieur Bobert, est fondamental pour quiconque veut comprendre la littérature, la photographie ou l'histoire des convulsions comme des petites évolutions du XXe siècle. Donc, Robert Bobert, il me semble que vous êtes un passeur, comme on dit, un travailleur infatigable de la mémoire, et vous êtes toujours en recherche de la trace de ce qui n'est plus et aussi de ce qu'il faut sauver de l'oubli, donc de l'effacement. À la volonté d'anéantissement qui est propre à la Shoah, vous opposez l'observation scrupuleuse, la quête obstinée des strates du souvenir. Et donc votre collaboration avec Georges Perec, avec Pierre Dumayet, et aussi votre volonté d'établir le contact avec votre lecteur, qui est aussi votre spectateur, mérite, il me semble, qu'on entre davantage dans votre processus de création, dans votre processus d'écriture, aussi bien cinématographique que littéraire. Donc, vous insistez beaucoup sur votre formation d'autodidacte, mais vous êtes un cinéaste et un écrivain à part entière, à la personnalité et au style à la fois affirmé, et je dirais même subtil et profondément humain. Ce ne sont pas des compliments, c'est la vérité. Et c'est ce qui m'amène à vous poser une première question. Ce qui frappe quand on découvre une de vos œuvres, qu'elle soit littéraire ou qu'elle soit filmique, c'est qu'elle repose souvent sur une composition en puzzle. C'est une image que vous laissez vous-même entendre dans votre dernier livre, « Par l'instant, la vie n'est pas sûre ». Vous procédez comme un rhapsode, comme un tailleur, comme un couturier. Je fais référence ici, évidemment, à votre expérience d'apprenti. Et ce couturier rejoindrait des bribes de souvenirs, des traces du passé. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Qu'est-ce que vous entendez par le puzzle, finalement?
Oui. Non, mais c'est, quand vous avez parlé de mon métier de tailleur, mon premier métier, il se trouve que ce côté marginal que j'ai encore et qui ne me quitte plus, c'est que tous ces métiers, je les ai appris en les faisant. Je n'ai pas appris comme un artisan. Quand j'étais tailleur, j'ai appris avec un tailleur qui était assis en tailleur. Voilà. Et il m'a dit, avant de savoir coudre la machine, il faut savoir coudre la main. Donc, j'ai encore quelque part un dé à coudre. Voilà, ça c'est un dé à coudre d'homme. Voilà. Donc, j'ai appris comme ça. Et tous les métiers, et je n'ai pas du tout été surpris d'apprendre le métier de cinéaste en étant, éducateur dans les 400 cours de Truffaut. J'ai appris mon métier comme ça, mais il faut apprendre ces métiers en les aimant, bien évidemment. Hein, sinon, si on apprend le métier de cinéaste par obligation, on devient forcément un mauvais cinéaste. Ouais. Alors donc, tous ces métiers ont été importants, et il y a des gens qui ont cru que, heureusement que j'ai fait des films, que j'ai écrit, c'était une revanche sur la vie, etc. J'ai jamais compris pourquoi, j'ai dit, mais pas du tout. Si je fais des films comme je les ai faits, si j'écris comme j'écris, c'est parce qu'avant, j'ai fait d'autres choses. Tous ces métiers... Toutes ces rencontres que j'ai pu faire m'ont construit, m'ont nourri, et c'est pourquoi on en retrouve des traces dans tout ce que je fais, soit film, soit livre. Et si dans le dernier livre, par instant, la vie n'est pas sûre, je raconte les dernières anecdotes quand on avait 13-14 ans, quand on allait voir un copain qui était serveur dans un café, on était très fiers pour lui, voilà, un garçon de 14 ans qui ou également le désir d'être horloger, parce qu'il y avait un vieux horloger qui travaillait très très bien. Et voilà, tout ce qui m'a tout ce que j'ai pu faire dans ma vie m'a aidé à faire ce que je fais de la meilleure dont je fais. Donc je n'écris pas comme les autres. Il y a quelqu'un qui est un peu comme moi, c'est Jean-Claude Grimbert. Et quand il a lu mon dernier bouquin, il m'a téléphoné, il me dit: Robert, ton livre, j'aurais pu l'écrire. Voilà. Mais effectivement, parce que lui aussi, il a été tailleur, et la différence entre lui et moi, c'est que moi, j'étais meilleur tailleur que lui. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, parce que je passe d'une idée à une autre comme ça, mais que j'écris aussi comme ça.
Oui, et de ce fait, vous êtes bel et bien un rhapsode, si je comprends bien.
Pardon?
Un rhapsode au sens étymologique du terme. Mmh. Vous cousez ensemble des chants comme le faisait Homère. Mmh. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée?
Oui, attendez, alors, je ne l'ai pas très bien compris.
Je disais, je ne sais pas si vous m'entendez.
Oui.
Je disais que vous êtes comme un rhapsode au sens étymologique du terme, c'est-à-dire comme Homère, vous cousez ensemble différents chants pour leur donner une unité.
Oui, c'est un peu compliqué pour moi
comme définition.
Oui.
Mais alors disons que vous avez taillé comme il faut les costumes de vos ouvrages, si je comprends bien.
Oui, alors, effectivement, la différence... Alors effectivement, quand on coupe un vêtement, le problème, c'est qu'il faut bien les couper. Si on les coupe pas bien, on ne peut pas les assembler. Alors, et un vêtement qui n'est pas assemblé, le dos avec le devant, l'avant-bras avec le bras, etc., la manche sur l'épaule, c'est très important. Et la différence tout de même entre le métier de tailleur et les autres, c'est qu'un vêtement usagé, on peut faire des retouches. Un film ou un livre, il ne faut pas le retoucher. Une fois qu'il est fait, il est fait. Et même si on y trouve des défauts, il n'est pas question de le remonter différemment. On commet tous des erreurs. Moi, il y a des films que j'ai fait. Je me dis, ça, j'aurais dû le faire autrement. Mais je ne touche pas à ce film. Ce que je vais faire, c'est que cette bêtise-là, je ne la referai pas dans un autre film. Voilà. J'en ferai d'autres. Mais, voilà. Mais, voilà. Un livre et un film, quand c'est fait, c'est fait. Et dès qu'il est montré au public, à mon avis, il ne faut pas y toucher. Alors, je sais qu'il y a des gens qui retouchent après. Mais ça ne sert à rien. Il faut passer à autre chose. Alors que les vêtements, les retouches, ça arrive. Les vêtements d'un frère trop grand, qui ne lui va pas, on le retouche pour le petit frère. Ça, on connaît ça. Voilà.
Vous êtes donc un artisan, au sens propre du terme, noble du terme. Et vous touchez un peu à tout. Je voudrais que nous venions en particulier au rôle que joue la photographie dans votre œuvre. Vous parlez beaucoup de photographie dans votre œuvre écrite. Vous utilisez beaucoup la photographie dans votre œuvre cinématographique. Et en particulier, nous avons choisi ensemble un texte que vous avez la gentillesse d'accepter de nous lire. C'est un texte qui était extrait de « On ne peut plus dormir tranquille quand on a une fois ouvert les yeux ». C'est à la page 53 et à la page 54. Vous y évoquez une photographie représentant une famille américaine.
Ah, là, c'est la photo, oui. Oui. Alors, c'est une photographie anonyme. Je ne sais pas quelle est. C'est une photographie du début du siècle, au début du siècle dernier. Voilà, au début du XXe siècle. Alors, la photographie représentait une famille américaine de 11 personnes réunies autour d'une. La photographie représentait une famille américaine de 11 personnes réunies autour d'une aïeule, assise sur un petit fauteuil à bascule. Peut-être à la demande du photographe, à moins que ce soit le désir de la famille, ces 11 personnes prennent la pose adossées à un mur sur lequel sont accrochés 4 portraits d'ancêtres soigneusement encadrés, 2 hommes et 2 femmes. Et je compris alors pourquoi je m'étais arrêté sur cette photo. Si elle a été prise là, précisément à cet endroit, c'est pour avoir une image dans laquelle ils seront tous ensemble, les vivants et ceux qui avaient vécu avant eux.
Je disais que vous interrogiez régulièrement la photographie, et par exemple vous scrutez les numéros de rue, et vous reconstruisez même quelquefois tout un quartier à partir de tirages en noir et blanc. Je pense évidemment au film En remontant la rue Villain. Finalement, vous redonnez une vie à cette famille que vous venez d'évoquer, et dans votre dernier film, Vienne avant la nuit, vous redonnez vie à la famille de votre arrière-grand-père. Finalement, quel statut vous conférez à cette image photographique de manière générale? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, la photographie?
Alors, la photographie, c'est quelque chose qui est venu avant le cinéma, mais assez tôt même. Un jour, j'ai vu une photographie, je ne sais plus si c'est de Willy Ronis ou de Robert Doisneau, qui m'avait touché. Et je m'étais demandé pourquoi, parce que les gens représentés n'étaient pas des gens que je connaissais. Jusqu'à présent, les photos que je connaissais, c'était des photos de famille, mariage ou autre, ou des photos de vacances, avec inconnus de vacances. Et là, je me dis, comment ça se fait que je suis touché par cette photographie, alors que les gens qui sont là, je ne les connais pas. Et j'ai donc commencé à m'intéresser à la photographie. Je me suis rendu compte que ça racontait un univers, une histoire, et certainement ça m'a amené à m'intéresser aux autres. Et après, j'ai vu les premiers films que j'ai vus qui m'ont touché à ce point-là. C'est 14 juillet de René Clair, etc. Tous ces films-là d'avant-guerre. Et je croyais qu'il y avait du bon cinéma que le cinéma d'avant-guerre. Voilà. Et en fait, c'est parce que ces films représentaient un passé que je ne connaissais pas, qui n'existait plus, et qui n'avait rien à voir avec les films qu'on fait qui racontent un passé. Mais 14 juillet de René Clair, les personnages, la manière dont ils bougeaient, dont ils parlaient, dont ils étaient habillés, était filmé au présent. Et on ne filmait pas un passé, voilà. Et c'est comme ça que je me suis intéressé petit à petit au cinéma. Mais la photographie aussi raconte une histoire, parce que on peut s'arrêter à un moment donné. Alors on n'arrête pas le temps continue à passer. Mais cette photographie raconte un instant. Le temps continue à courir. Quand on a fini de regarder la photographie, on est plus loin dans le temps. Et c'est bien de pouvoir retenir des instants comme ça. Et je crois que c'est ce qui me touche, finalement. C'est pourquoi d'où la présence de toutes ces photographies derrière moi, qui racontent un moment de ma vie qui était important pour moi. Enfin, le bébé que j'ai dans les bras, dont on voit la photo derrière moi, c'est Joachim tout petit. Voilà. Maintenant, il est aussi grand que moi. Voilà. Donc, c'est bien qu'il y ait eu cette photo.
Finalement, vous parlait beaucoup du rapport au temps à travers le cinéma, à travers la littérature, et on le retrouve aussi, ce rapport au temps, dans un travail que vous faites fréquemment quand vous écrivez et quand vous êtes dans votre bibliothèque, c'est que vous notez scrupuleusement des citations. Et en particulier, je laisse de côté évidemment votre collaboration avec Georges Perec ou Pierre Dumayet ou d'autres encore. En particulier, ce qui frappe quand on regarde vos films, quand on lit vos ouvrages, c'est justement ce recours à la citation. Votre travail se nourrit des réflexions des autres, des textes des autres. Est-ce qu'on peut dire à ce moment-là que vous êtes un peu comme Montaigne, c'est-à-dire que vous aimez bien frotter votre cervelle à celle d'autrui? Et ce faisant, la citation, vous l'intégrez et elle devient quelque chose de constitutif un petit peu de votre œuvre. Qu'est-ce que vous voyez dans la citation des autres? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous?
Eh bien, c'est-à-dire que si je cite autant les auteurs que j'aime, c'est parce que j'en ai besoin. Et puis, si je les cite et que je pense ce qu'ils pensent, c'est parce qu'ils le disent mieux que je ne saurais le faire. Et donc autant citer, voilà, que je cite Jabès par exemple, ou Reverdy, voilà, ce sont des maîtres qui disent les choses mieux que moi. Alors donc je les cite, et non pas pour montrer que je les ai lus. Je les montre parce que j'en ai besoin, tout simplement. Voilà, autant qu'ils soient là présents, et c'est pas du tout une revendication.
Et pourtant, les citons, vous les faites complètement vôtres. Ce travail de la citation nous ramène un petit peu à votre travail global sur le souvenir. Mais finalement, ce souvenir, pour vous, est-ce que c'est l'obsession d'un collectionneur ou est-ce que c'est plus encore? Pourquoi toujours ce travail sur le souvenir?
Non, c'est pas du tout, c'est pas du tout un travail de collectionneur.
Bien sûr.
Enfin, si on peut parler de collection, je vous ai montré le dé à coude tout à l'heure, voilà. Mais c'est plutôt des objets, c'est plutôt des souvenirs. Non, c'est parce que et même ce qu'il y a derrière moi, c'est les petites étiquettes, c'est pas du tout des phrases de collection. Voilà, j'ai plus la mémoire que je pouvais avoir quand j'avais 20 ans ou 30 ans. Et il suffit que je me retourne et je retrouve le texte de Jean Kalivitch ou d'un autre. Plus facilement. Et puis, et ça me rassure qu'ils sont là avec moi.
C'est une façon de lutter contre le passage du temps que vous avez évoqué tout à l'heure.
Oui. Je ne sais pas comment on fait pour lutter contre le passage du temps. J'aimerais savoir si. Non, on vit avec le temps. Alors, je sais que le passé est beaucoup. Il y a des gens qui sont comme ça, il y a des auteurs qui se retournent beaucoup sur le passé, des gens aussi différents que Bodiado, Calais, Ardelais, etc. Alors oui, c'est vrai que Bodiado disait qu'il avait des souvenirs d'avant sa naissance. Et ben, je vais faire partie des personnes qui s'intéressent au passé. Et parce que quand on nous dit il faut que l'oubli est fondateur, etc., ça, j'en crois pas un mot. C'est au contraire. C'est le passé qui nous aide à mieux comprendre le présent.
Oui, absolument. Et je crois que c'est le sens.
Oui. Petite parenthèse.
C'est le sens d'une grande.
Oui.
Grande partie de votre œuvre.
Oui, on a parlé tout à l'heure d'un personnage qui s'appelle Luba, qui était la directrice de colonie de vacances. elle a été formée, c'était une élève de Korczak. Korczak était l'un des grands pédagogues du XXe siècle, comme Montessori ou Bakarenko. Et elle me racontait des choses, et j'aimais bien qu'elle me raconte ça, parce que à travers elle, je me nourrissais de son expérience de pédagogue. Voilà, oui, je crois que c'est ça. Enfin, j'aime bien. Mais quand je me balade dans Paris, je ne fais rien d'autre, non pas de découvrir des choses, mais de retrouver quelque chose qui était en moi. Enfin, quand je me promène dans le quartier de Belleville, ce qui m'arrive assez souvent, un tas de lieux qui n'existent plus. Mais comme je les ai connus avant, je les vois en transparence. Voilà, et je m'y sens bien.
Et cette belle définition que vous nous donnez du souvenir, finalement, se retrouve aussi dans votre façon d'utiliser la voix off. Ce rapprochement peut être étonnant. Je vais préciser ma pensée. La voix off, celle qu'on entend dans un documentaire traditionnel, c'est une voix informative, didactique, elle a le ton de l'autorité, c'est la voix de celui qui sait, et en même temps, cette voix, dans la mesure où elle prétend tout savoir, elle fige l'image, elle l'appauvrit, et des fois même, elle la détourne. Vous, au contraire, dans l'utilisation que vous faites de la voix off, vous êtes présent, c'est-à-dire que vous assumez totalement votre subjectivité, mais vous le faites toujours avec beaucoup de discrétion, avec un ton volontairement apaisé. Et on retrouve là d'ailleurs la tonalité de vos livres. Pourquoi cette utilisation de la voix off avec la subjectivité assumée dont vous faites preuve?
Vous avez déjà répondu dans la manière de poser la
question. Je suis allé trop loin.
De poser la question. Effectivement, on m'a des fois reproché, on m'a dit... Tu ne parles que de toi, et je ne parle pas de moi, je pars de moi, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et c'est une manière, au contraire, de m'engager. Et quand j'entends un commentaire qui se veut objectif, je ne sais pas ce que c'est que d'être objectif par rapport à un événement, ou à ce qu'on voit ou ce qu'on entend. Et c'est de prendre une distance et de juger. Voilà. Moi, je ne donne aucune information dans mes textes. C'est un récit dans lequel les mots sont aussi présents que les images. Alors, bien sûr, si je vais au restaurant, je dis pas on va au restaurant. Ça, si ça se voit, il n'y a aucune raison de le raconter, de le dire en plus. Un récit est fait d'un ensemble. Je disais tout à l'heure que lorsque je vais au cinéma, j'ai la tête levée vers l'écran, je porte le regard et je prête l'oreille. Donc c'est une chose qui m'a toujours paru naturelle. D'ailleurs, dès mon tout premier film, je parlais à la première personne. Alors, à la télévision, comme il y a souvent des commentaires off, alors qu'ils soient... commentaires, une manière de s'engager, ce que je fais, ou des commentaires qui donnent des informations, ça ne gêne pas. Au cinéma, la voix off souvent dérange. Or, les plus grands cinéastes ont utilisé la voix off.
Vous avez effectivement insisté tout à l'heure sur l'importance du son et de la parole dans un film, alors qu'on a tendance à ne voir que l'image, et vous prêtez, à côté de la voix off, beaucoup d'attention à la musique. En particulier, dans Vienne avant la nuit, vous insistez beaucoup sur la composition musicale qui illustre ce documentaire, et j'ai vu que vous aviez une collaboration plus que régulière avec Denis Cugnot, qui est à la fois un pianiste et un compositeur. Ma question sera double. D'abord, qu'est-ce que vous attendez de la collaboration avec Denis Cugnot? Et deuxièmement, d'une manière plus générale, quelle conception avez-vous de ce qu'on appelle, faute de mieux, la musique de film?
Alors je n'utilise pas toujours la musique de film. Les Silent, par exemple, il n'y a pas une note de musique. Parce que pour moi, le texte de Perec suffisait. Voilà, je n'avais pas envie d'illustrer, entre guillemets. Par contre, pour Viens d'avant la nuit, j'avais besoin de la musique. Voilà, donc, ça dépend. Je ne refais pas un usage systématique. Mais ce que j'aime pas, c'est lorsqu'il se fait beaucoup, et de plus en plus maintenant en fiction, c'est que la première note de musique vient avec la première image et ne se termine qu'avec la dernière image. Quoi qu'il arrive, il y a toujours de la musique. Alors ça, je trouve que c'est pas. C'est que souvent, c'est trop chargé. C'est bien des fois d'entendre également les silences. Les silences sont souvent plein de quelque chose, voilà. De même que des fois le texte l'emporte sur l'image. Dans le film que j'ai tourné en Pologne, à un moment donné, il y a un plan noir de, je sais plus, 20 secondes à peu près, où la voix continue. Et les gens sont tellement habitués à ce que à ce qu'il y ait toujours une image au cinéma. Se disent, il s'est passé un truc. Moi, dans ce film, la première fois que je l'ai montré, l'opérateur dans sa cabine a arrêté la projection. Alors, j'étais voir jusqu'à ce qu'il s'arrive, il dit, la pellicule a cassé. Alors j'ai dit, expliquez-moi pourquoi la pellicule ayant cassé, pourquoi on continue d'entendre le son. Et en fait, c'est parce que je voulais qu'il y avait cette image noire qui racontait quelque chose avec le texte qui continuait. Voilà. Et se dire que des fois, c'est le son qui l'emporte, des fois, c'est l'image, et des fois, les deux s'épousent parfaitement.
C'est une parfaite définition du cinéma que vous venez de donner là. Bientôt au cours de cette conversation, à regret hélas. Et pour terminer, je voudrais revenir sur un élément auquel vous faites très souvent référence, c'est au début du film La Ronde de Max Ophüls, qui a certainement influencé d'ailleurs votre désir de revenir sur le passé de la ville de Vienne avant l'Anschluss. Vous citez donc le début du film d'Ophüls, La Ronde, dans vos livres On ne peut plus dormir tranquille quand on a une fois ouvert les yeux. Vous le citez encore dans Par instant, la vie n'est pas sûre. Et l'extrait même du début du film de La Ronde est projeté dans votre documentaire Vienne avant la nuit. Alors avant de vous poser la question, j'aimerais vous demander une faveur, ça serait de nous lire le texte que l'acteur Anton Walbrook dit au début du film de Max Ophüls, si vous voulez bien.
Oui, je vais le lire. Alors c'est un texte qui pour moi est très important sur la manière de filmer. C'est savoir où on met la caméra. Et on ne montre pas les mêmes choses par rapport à l'événement. Si on se trouve proche, ou loin, ou derrière, ou devant, ou sur les côtés. Et j'ai presque envie de dire par coquetterie, je l'ai mis au début de Viens d'avant la nuit. Le film Viens d'avant la nuit commence par le générique de La Ronde. Ce qui fait qu'il y a des gens qui ont cru s'être trompés de salle quand ils ont vu le film. Donc j'ai raccourci leur générique quand même pour les rassurer. Et c'est Anton Walbrook qui est un comédien qu'Ophüls utilisait souvent dans La Lamentaise, entre autres, où il est remarquable. Et Ophüls, à travers lui, parle au spectateur, ce qui est très très rare au cinéma de parler. Groucho Marx le faisait, voilà, de parler aux gens dans la salle. Alors je vous lis ce passage où on voit simplement Anton Walbrook marcher sur une scène. Et moi, qu'est-ce que je suis dans cette histoire? L'auteur, le compère, un passant, je suis vous. Enfin, je suis n'importe lequel d'entre vous. Je suis l'incarnation de votre désir, de votre désir de tout connaître. Les hommes ne connaissent jamais qu'une partie de la réalité. Et pourquoi ? Parce qu'ils ne voient qu'un seul aspect des choses. Moi, je les vois tous, parce que je vois en rond. Cela me permet d'être partout à la fois. Partout ? Mais où sommes-nous ? Sur une scène ? Dans un studio ? Non, dans une rue. Nous sommes à Vienne, en 1900. Changeons de costume, 1900, nous sommes dans le passé, j'adore le passé. C'est tellement plus reposant que le présent, et tellement plus sûr que l'avenir. Voilà, donc, lorsque Schnitzler a écrit ça, il ne savait pas qu'il y aurait la Seconde Guerre mondiale. Le fait que Fuchs l'utilise, ça prend tout à fait un autre sens lorsqu'il dit que le présent, que le passé est tellement plus sûr que l'avenir. Fuchs a tourné son film après la Seconde Guerre mondiale. Schnitzler a écrit ça au début du XXe siècle. Et c'est bien que ce texte ait pu être pris par Fuchs pour raconter la suite.
Et non seulement on peut voir dans le texte de Schindler qui a servi de base au film d'Ophüls une sorte de prémonition, mais en même temps il y a une définition du rôle de l'écrivain et du rôle du réalisateur qui est le fait qu'il voit en rond, c'est-à-dire la réalité dans sa totalité, dans son entièreté. Est-ce que vous pensez qu'il est possible pour le réalisateur que vous êtes, l'écrivain que vous êtes, d'embrasser cette entièreté de la réalité, ou est-ce que c'est une utopie? Et est-ce que pour vous, je poursuis ma question dans une autre direction, est-ce que le passé est plus sûr que l'avenir, puisque c'est ce que dit Anton Walbrook? Mais vous avez déjà répondu en partie.
Oui, oui. Alors effectivement, on ne peut pas être partout à la fois. Alors, pour ceux qui connaissent l'œuvre d'Ophüls, on sait que la caméra se promène beaucoup, enfin se promène, elle est dirigée. Mais on ne peut pas être partout à la fois, il faut choisir l'endroit à partir duquel on raconte une histoire. Il y a une photo que je cite, photo anonyme d'un lynchage aux États-Unis, je crois dans les années 1880. Et on voit qu'il y a quelqu'un donc qui est lynché, qui est pendu à une branche d'arbre. Et tous les personnages qui sont les plus proches de l'appareil photo regardent l'appareil photo. Et ça raconte qu'en fait, dans ces années-là, la présence d'un photographe était plus rare qu'un lynchage. Mais donc c'est le choix du photographe d'avoir pris une certaine distance. Mais si le photographe s'était placé près de l'arbre, il aurait montré presque le point de vue du pendu, et avec les personnages qui au premier plan avaient décidé de le pendre. Voilà, donc c'est tout dépend de la manière, de ce qu'on veut raconter par rapport à un événement donné.
Cette photo est extrêmement impressionnante et très prégnante, pour reprendre une expression concernant la photographie. On la trouve dans la ville Rassure. C'est une photo qui est marquante au sens très fort du terme. Et c'est bien que vous terminiez votre entretien sur cette évocation, parce que finalement elle nous ramène à votre préoccupation première, qui est quand même interroger sans cesse le monde et le passé, puisqu'il nous parle de nous et peut-être aussi de notre avenir. Je vous remercie infiniment, Monsieur Robert, de votre générosité et de la précision de vos réponses. Et j'avoue que, comme mes collègues, j'étais très ému de vous en entendre. J'espère que cette émotion sera partagée par nos auditeurs. Merci infiniment.
Oui, je vous remercie. Sur le plan de la précision, je n'en suis pas tellement sûr, mais bon.